Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Pendant une demi-heure, parfois plus, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout. Et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et de Emmanuel, notre invité. Et nous allons vous parler de marques engagées sur les réseaux sociaux. Quelle stratégie adopter et comment se démarquer? Un dernier mot, si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Allez, je vous laisse, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce 26e épisode du Pod. Alors aujourd'hui, nous allons parler des marques engagées sur les réseaux sociaux. Et pour aborder ce sujet, je suis avec Brian. Bonjour Brian.
Bonjour Gwen.
Mais également avec notre invité du jour, Emmanuel ou Emma, qui est directement concernée par ce sujet puisqu'elle gère la communication d'une marque qui s'appelle J'aime mes dents. Alors Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ce que tu fais?
Avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Emmanuel Gardin, je suis à mon compte en tant que social media manager et community manager à Angers. Je travaille avec diverses entreprises, majoritairement dans une sensibilité écologique ou culturelle. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une entreprise que j'accompagne depuis 2 ans et demi maintenant déjà, qui est aussi, elle, basée à Angers et qui s'appelle J'aime mes dents. Donc vous allez rapidement comprendre ce que c'est comme entreprise, puisque c'est une entreprise qui est née en 2017 en créant des abonnements de brosses à dents en bambou pour éviter le plastique dans les salles de bain. Et moi, je les ai rejoints en 2019 quand ils ont lancé la Maline, donc qui est une brosse à dents au bois français à la tête interchangeable en plastique, mais fabriquée en Italie, et qui maintenant propose des accessoires éco-responsables, zéro déchet, majoritairement fabriqués en France et 100% européens.
Super, merci pour ta petite présentation. Alors juste 2 mots pour savoir pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aborder ce sujet avec toi aujourd'hui. Donc on avait envie d'aborder ce sujet parce que les marques engagées, c'est vrai qu'elles sont de plus en plus nombreuses, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Et faire savoir qu'on est une marque engagée, ça passe aussi par la communication. Donc il faut savoir expliquer son ou ses engagements, le diffuser et le partager avec sa communauté. Mais du coup, ça peut ne pas toujours être évident de savoir quelle stratégie adopter et comment se démarquer face à toutes les autres marques qui mettent en avant un engagement quelconque. Donc aujourd'hui, on voulait expliquer tout ça à nos auditeurs avec toi dans l'épisode du jour. C'est parti ?
Ouais, c'est parti.
Alors, dans l'introduction, je parlais de marque engagée. C'est peut-être pas clair pour tout le monde ce que c'est qu'un engagement ou une marque engagée. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu ce sujet ? Ce que c'est pour toi une marque engagée ?
Avec plaisir. Pour moi, je pense que une marque engagée, c'est une marque qui défend une cause. Je pense que c'est une marque qui a été créée déjà avec une raison d'être qui était en rapport avec une volonté de changer un dysfonctionnement social, écologique. Et du coup, c'est potentiellement la création de produits ou de services qui veulent répondre à une problématique qui était pour J'aime mes dents trop de plastique dans la salle de bain et du coup une surconsommation de plastique. Du coup, une marque engagée dans sa communication aussi, c'est une marque qui va défendre un point de vue, le maintenir dans sa ligne éditoriale et comme tu le disais un petit peu, avoir utilisé les réseaux sociaux pour les utiliser comme un levier de prise de parole et de mise en avant de l'engagement quel qu'il soit.
Ok.
Est-ce que ça vous parle ?
Oui, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, c'est un peu comme si la marque se comporte comme une personne. Enfin, on a tous et toutes individuellement des choses qui nous tiennent à cœur, des sujets, oui, des thèmes auxquels on est très sensible, parfois même dans lesquels on s'engage. Et on aime bien aussi le faire savoir pour faire bouger les choses. Bah, finalement, la marque, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle va se comporter totalement comme une personne. C'est un peu ça, finalement, si je résume, Emma.
Moi, je trouve que c'est une... c'est une bonne image. Je pense que c'est être, ouais, s'identifier à répondre à quelque chose. Ouais, ça, ça marche avec le fait de personnaliser un petit peu la chose. Ouais, je suis d'accord.
Alors moi, je me demandais, quand je préparais ce sujet, j'ai pensé à quelque chose et je me suis dit, est-ce qu'une marque qui est engagée, est-ce qu'elle l'est forcément dans sa communication, hein?
Moi, je pense que oui, forcément. Je pense que après, il y a toujours des dérapages. Je pense qu'il y a des marques qui se disent engagées et qui le sont pas toujours. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais je pense que si on est engagé, si la marque est engagée et si l'entreprise est engagée, il faut aller jusqu'au bout des choses. Même l'entreprise, en fait, en elle-même, elle doit être engagée sur sa façon de consommer, sur son bureau, sur son électricité, sur la façon dont elle accompagne ses salariés. Et du coup, la communication, elle rentre clairement dans un axe où on utilise l'engagement et je vais pas y arriver. La ligne éditoriale doit aller dans ce sens-là aussi.
Ouais.
Ouais, surtout que ce que je trouve intéressant aussi dans tout ça, c'est qu'en fait, j'ai la sensation qu'avec la crise sanitaire qu'on vient de passer, les consommateurs, les internautes, appelons-les comme on veut, sont de plus en plus sensibles aussi aux marques qui vont avoir des engagements. Alors, il y a différents types d'engagements, il y a différents niveaux, mais en tout cas, j'ai quand même la sensation aujourd'hui qu'il y a une attente très forte de la part des Français aussi d'avoir des marques, des entreprises qui soient alors, responsables. Ça, c'est déjà le cas depuis plusieurs années, enfin, en tout cas, de plus en plus, mais respectueuses, qui portent certaines valeurs. Enfin, on voit, je veux dire, les thèmes autour de la mixité, du Made in France, tout ça, c'est quand même des choses dont on parle de plus en plus, mais aujourd'hui, il y a deux, enfin ça devient aussi un axe de différenciation pour certaines marques et aussi un argument pour beaucoup de consommateurs de dire bah franchement moi produit équivalent je préfère mettre un peu plus et acheter les produits de cette marque là parce que elle correspond aussi à ce qui résonne en moi. Donc je pense que la crise a dû accélérer quand même beaucoup de choses.
Moi je pense qu'il y avait déjà quelque chose qui était en train de se passer. Déjà avec toutes les, enfin là je pense d'un point de vue écologie, même avec MeToo, enfin tout, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Bah moi depuis que je suis arrivée en France en 2016, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience sur notre consommation, notre fonction, notre façon de se comporter. Et oui effectivement, les marques elles doivent aller dans ce sens-là. Déjà elles le doivent parce que c'est pour réussir à proposer des produits et des services qui sont les plus en axe avec la façon de consommer des Français, puisque le monde entier n'est pas totalement concerné par tout ça. J'ai pu voyager dernièrement un petit peu et on n'est pas au même niveau de développement du vrac, par exemple, ou de la conscience du fabriqué local ou de la consommation locale. Moi, c'est quelque chose en habitant en Irlande que je connaissais très peu. Et en arrivant à Angers, j'ai eu l'impression que c'était hyper intéressant et c'était mieux de consommer avec en achetant des produits aux gens que je connaissais. Donc quand moi j'ai appris qu'il y avait des brosses à dents qui étaient ou des produits accessoires qui étaient commercialisés ou l'entreprise était à Angers, bah c'était une raison de plus aussi de soutenir cette marque là quand ils ont fait appel à moi.
Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, parce que tu parles beaucoup de Angers, enfin du local. Nous, ça nous va très bien, hein, parce qu'on est voisins finalement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs années, la question justement de l'engagement social, sociétal des entreprises, j'ai l'impression que c'était quand même réservé aux grandes entreprises, alors qu'aujourd'hui, ça touche vraiment des TPE, des PME, des start-up qui sont. Enfin, c'est plus l'apanage des grands groupes. Ce qu'on vivait il y a encore une dizaine d'années. Là, ça touche vraiment tous les types d'entreprises, toutes les tailles d'entreprises.
Moi, je suis d'accord et je pense que même pour les plus grosses entreprises, c'est plus compliqué d'aller vers une transition comme ça quand elle n'a pas été faite depuis le début non plus aussi.
Oui, tu veux dire quand ce n'est pas dans l'ADN même de la marque, dans sa raison d'être.
Ouais.
Ah bah, justement, très belle transition pour moi. Parce que tout à l'heure, je te demandais si une marque engagée, elle était forcément dans sa communication, mais justement, en fait, à l'inverse, j'avais intentionnellement envie de mettre le doigt sur quelque chose. À l'inverse, est-ce qu'une marque engagée dans sa communication l'est forcément dans ses valeurs,
dans ses actes,
dans ses actes, oui.
Bah, je pense que toutes ne le sont pas. ce qu'on appellera le greenwashing. Mais je pense qu'il y a plein, d'entreprises qui se saisissent du côté. Les gens, justement, comme tu disais aussi, Brian, ont une sensibilité qui est plus importante envers le Made in France, l'écologie, le éco-responsable, fabriqué, co-conçu, etc. Et que finalement, ça ne l'est pas forcément jusqu'au bout. Il y a des produits qui sont labellisés Made in France, mais finalement, quand on gratte un petit peu, il y a de l'assemblage en France. Je pense à une marque de lunettes. Moi, je pensais que je les ai achetées parce que c'était fabriqué en France. Et en grattant un petit peu, en fait, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que c'est potentiellement la dernière vis qui est mise en France et pas le reste. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de... Il faut se questionner à ce niveau-là, au niveau des marques. Et c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage pour elles. Vaut mieux regarder les petites marques qui communiquent pour de vrai. Mais je suis d'accord, faut se poser la question.
Bon. T'avais une question, Brian ?
Non, et du coup, c'est très bien. On va se concentrer sur celles qui le sont réellement et qui ont des promesses fortes, qui ont même construit un produit autour de valeurs. C'est celles-là qui sont, du coup, les plus intéressantes.
Oui, c'est celles-là qui nous intéressent aujourd'hui. Et alors, du coup, moi, je voulais avoir tes conseils. Quand on est une marque engagée qui souhaite se lancer sur les réseaux sociaux ou qui est déjà présente sur les réseaux sociaux, mais qui souhaiterait améliorer cette partie-là, par quoi est-ce qu'il faudrait commencer ?
Je pense que vous savez comme moi que c'est important de définir ses cibles et ses objectifs déjà dans un premier temps. C'est vrai que pour une marque engagée, il faut savoir à qui on s'adresse. Et je trouve que la différence comparée à la majorité des marques que je connais aussi, c'est que il faut justement, comme je le disais au début, bien identifier la raison d'être de l'entreprise et les problématiques auxquelles on répond et revenir dessus hyper régulièrement. Le pourquoi du Made in France, le pourquoi de l'Europe. C'est bien de faire un produit Made in France, mais pourquoi on le fait en fait ? C'est parce que on veut diminuer l'empreinte carbone, parce qu'on veut diminuer la pollution, parce que ça nous évite des suremballages. Pourquoi vraiment axer au plus près de la problématique la plus importante et aussi définir des axes de contenu en accord avec le marché pour moi, c'est-à-dire le cœur de la stratégie, c'est l'humain, puisque la raison pour laquelle on essaye de répondre à ces problématiques, c'est pour préserver l'humain et pour que la planète aille mieux et que les êtres humains aillent mieux aussi. Ça, je pense que c'est important. Après, je pense que il faut vraiment avoir conscience du marché aussi et de la façon dont ça évolue. Et au niveau des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux aussi, c'est vraiment se remettre en question par rapport à certaines habitudes des réseaux sociaux et essayer de les appliquer au plus près de la façon dont on communique. C'est jamais évident aussi, je prends un peu de pied une question, mais moi je me pose des questions aussi parfois sur la pollution des réseaux sociaux et me dire... on communique, on est une marque éco-responsable, on continue à communiquer sur les réseaux sociaux, on ne sait pas comment on pollue d'un point de vue global. Mais bon, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais c'est parfois faut pas, c'est compliqué de pas avoir les réponses à ce niveau-là et de se dire comment on continue à communiquer. Bon, j'ai un peu dévié la question, excuse-moi Gwen, mais
t'inquiète.
Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que bon, au-delà de la chose très classique, définir ses cibles, ses messages, etc., dont tu as parlé, et qui sont effectivement essentiels. Il y a aussi, je pense, quelque chose que tu dis que je trouve hyper intéressant, c'est est-ce que finalement notre manière de communiquer sur les réseaux sociaux, elle est cohérente avec les valeurs qu'on défend ? Parce que finalement, quand on est une marque engagée, par exemple, sur la réduction de son empreinte écologique, admettons. Est-ce que le fait de publier 3 fois par jour sur les réseaux sociaux et de faire 15 stories sur Instagram, c'est cohérent avec aussi ce qu'on défend ? C'est pas du tout une attaque pour celles qui le font, mais je pense que ça peut être intéressant, effectivement, quand on est une marque engagée, de se dire, OK, il y a nos produits qui montrent finalement notre engagement. Il y a l'histoire de nos produits, il y a l'histoire de l'équipe, des fondateurs, des fondatrices, etc. Mais il y a aussi notre manière de communiquer, qui est de dire, ça doit être totalement, tout ça doit être en accord, en fait.
Moi, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Et tu vois, j'avais noté aussi, parce qu'il y a une réflexion que je me suis faite depuis que j'accompagne J'aime mes dents, où j'ai rencontré et j'ai été contactée par pas mal d'agences en marketing d'influence. Et là, il y a quelque chose qui vient de me revenir. Il y a une agence d'influence qui m'avait envoyé un book avec des profils de personnes qui avaient un grand nombre d'abonnés et tout ça. Et moi, ça m'a toujours titillé parce que oui, c'est dans les mœurs, oui, c'est dans les leviers qui peuvent permettre un meilleur engagement, une meilleure visibilité, etc. Mais j'étais là, je vois le nombre d'abonnés, mais je sais pas pourquoi vous avez choisi de me présenter ces personnes. Est-ce qu'elles sont engagées? Parce que moi, j'ai besoin d'engagement, je peux pas proposer d'envoyer des produits qui sont éco-responsables et zéro déchet à des personnes qui communiquent sur de la fast fashion, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il y a eu plein de fois où en fait j'ai dit on va pas faire ça parce que ça va pas dans l'éthique de notre marque. Et là, on est en train de mettre en place plutôt un système de ambassadeurs qui sont ambassadeurs, ambassadrices qui sont nos clients. Donc en fait, on laisse un peu de côté l'influence marketing et on a envie que les vraies personnes qui parlent de nos marques, c'est même s'ils ont 50 abonnés sur Instagram, ce soit des personnes qui connaissent nos produits et qui y croient. Mais bon, ça c'est je trouvais ça important de le dire aussi, c'est essayer de contredire un peu les stratégies un peu globales classiques pour se dire en fait ça on peut pas le faire parce que ça rentre pas dans notre éthique.
Je trouve ça totalement intéressant parce que effectivement, je pense qu'il faut absolument voir la marque engagée dans son ensemble et vraiment se dire ça doit même transparaître dans au-delà de nos messages, ça doit transparaître dans notre manière de communiquer. Et donc ça rejoint les pratiques, ça rejoint effectivement le système d'ambassadeurs que vous réfléchissez. Il doit y avoir vraiment une forme d'adéquation auprès de chacune des actions, parce que sinon, effectivement, on peut avoir la sensation qu'à un moment donné, finalement, cette marque, elle défend une cause, mais pas tout à fait, quoi. Pas à 100%, à 80-90%. Et l'idée, c'est vraiment d'être certain que tout soit aligné avec les valeurs qu'on défend. Et ça doit vraiment se ressentir dans les messages et dans la manière de faire.
C'est ça. Et puis, finalement, notre objectif commercial qui pourrait être de vendre plus de produits, c'est le cas indirectement puisqu'on a envie que les gens soient convaincus par les produits qui sont créés, qui sont vendus par J'aime mes dents. Mais en fait, c'est au-delà de ça, c'est changer la consommation des gens, c'est changer la consommation des Français. Donc c'est hyper complexe, c'est-à-dire qu'on va leur demander on va pas leur demander, mais on va communiquer de façon à éduquer, en fait. On va au-delà de faire passer nos messages, ils sont très dans la pédagogie, dans comment utiliser tel produit, parce qu'en fait, changer sa tête de sa brosse à dents, on n'a pas évolué comme ça, on n'a pas grandi en faisant ça, en fait. Et on n'est pas habitué à acheter une brosse à dents à 10 euros, mais potentiellement, c'est une brosse à dents qu'on garde tout le temps et quand elle est cassée ou qu'elle ne nous convient plus, on peut s'en servir autrement, on peut la mettre dans sa cheminée. C'est intéressant aussi, quoi. Mais bon, c'est un autre débat.
Ouais, non, mais d'accord. C'est, ça aussi, je trouve intéressant parce que, bon, on a évidemment voir le système dans son ensemble, mais il y a aussi dans les messages d'avoir conscience qu'il va y avoir besoin d'avoir beaucoup de messages pédagogiques parce qu'en fait, c'est un peu comme si on allait sur un nouveau marché où il y a des marques, des fois, qui font ça, qui vont lancer un produit sur un marché totalement nouveau où il n'y a pas ou peu de besoins. Et donc, du coup, il va falloir d'abord expliquer à quel besoin il répond, ou en inventer un d'ailleurs parfois, ce qui est discutable. Mais il y a vraiment, il y a un peu la même logique. Je ne dis pas que vous faites la même chose, mais finalement, vous allez quand même parler à des personnes qui ne connaissent pas du tout le produit, pour qui, en fait, c'est une nouvelle manière de faire. Et donc, il y a besoin d'éduquer, d'expliquer comment le produit fonctionne, à quoi il sert, etc. Et puis, je trouve qu'il y a un autre aspect pour une marque engagée qui veut être plus présente sur les réseaux sociaux, c'est de partir du principe que, de toute façon, les cibles auxquelles elle s'adresse sont beaucoup plus petites en taille que d'autres entreprises. Parce que Il y a quand même ça aussi, souvent, des marques vont se lancer en disant, voilà, moi, je vais essayer de m'adresser au grand public. Enfin, le grand public, OK, mais on ne peut pas parler aux 67 millions de Français. Et donc, je crois qu'il y a, dans ce que tu dis, il y a un élément qui est important aussi, c'est d'accepter de lâcher prise sur le fait qu'on ne va pas s'adresser à tout le monde. Et du coup, on va forcément s'adresser à un marché qui est de base plus petit, mais auprès duquel on va avoir besoin vraiment d'avoir des contenus suffisamment éducatifs pour qu'à terme aussi, ces personnes-là deviennent des ambassadeurs.
Exactement. Moi, je suis d'accord. Et en même temps, tu vois, là, j'ai aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est le mois du VRAC. C'est lancé par une association à laquelle J'aime Aidant a adhéré en 2017 et qui dit que 62% des Français souhaitent plus de produits VRAC en vrac. Et là, je fais une relation au fait que moi, quand je suis arrivée dans l'équipe J'aime Aidant, il y avait 150 points revendeurs et là, on est quasiment à 700. Donc en fait, il y a une évolution aussi, mais effectivement, je suis d'accord, c'est quand même une petite communauté que sont les consommateurs du vrac. Enfin, c'est pas tout le monde, quoi. C'est un peu, c'est aussi pareil si on avait dû parler de végétariens, de véganes, etc. Il y a du monde, mais c'est encore une minorité.
Et du coup, tu parlais d'influence, notamment là sur donc comment valoriser ses engagements quand on est une marque engagée. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de publications, pour parler très concret, à faire sur les réseaux sociaux pour valoriser son engagement, pour pas avoir à faire la même publication continuellement pour dire bah, on produit Made in France. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour valoriser son engagement sur les réseaux sociaux?
C'est une bonne question. non, je pense que après nous, ce qu'on fait aussi pas mal, c'est partager les avis, par exemple, de nos consommateurs directs qui eux mettent sans se rendre compte en avant le fait que ce soit fabriqué en France et qui sont fiers en fait de consommer, d'avoir une brosse à dents qui a un manche au bois français ou alors on a une alternative sans la tête interchangeable avec une brosse à dents suisse. Le porte-savon, il est français aussi. Le fait qu'on soit aussi présent au salon du Made in France, ça indirectement, ça veut dire qu'on a la majorité de nos produits qui sont français. Après, on est en train de développer. On diffuse des photos de photographes de partout en France, un peu pour dire on est bien basé en France, ça c'est en France, est-ce que vous connaissez? Et l'idée, ce serait potentiellement de dire de ce lieu-là jusqu'à chez nous, d'où partent vos produits, et ça prend tant de kilomètres, alors que si vous aviez commandé une brosse à dents classique, potentiellement, faut rajouter quelques milliers de kilomètres. Il y a un axe à développer à ce niveau-là qu'on avait déjà fait et qu'on est en train de redévelopper actuellement, parce qu'on s'est rendu compte que il fallait qu'on revienne sur nos problématiques de base et qu'on recommunique sur le Made in France. Après, j'ai pas d'exemple là directement en tête. On est pas mal sur l'utilisation des produits parce qu'ils sont assez différents de ce qu'on utilise tous les jours. Genre, je pense au porte-savon, c'est assez différent de tout ce qu'on a pu voir comme porte-savon tout au fil de nos vies respectives. Donc, il faut qu'on éduque aussi au niveau de ce point de vue-là. On est dans la pédagogie. Mais je réfléchis d'autres choses. Après,
Moi, j'avais vu que vous aussi... partagiez des « le saviez-vous ».
Oui aussi, c'est vrai. Merci Gwen.
J'avais trouvé vachement intéressant justement ce côté. On passe une info, ça concerne pas directement la marque, mais ça apporte justement un côté engagé. Hein.
Ouais, je sais pas comment vous imaginez aussi vos contenus, mais c'est vrai que c'est toujours agréable de parler d'autre chose que. Enfin, c'est toujours bien, je trouve, pour la communauté. De dire qu'on va pas que parler de nous et pas que parler de nos produits. Et c'est vrai que parler de global et de la consommation globale, surtout en salle de bain en général, mais c'est vrai que c'est important à nos yeux de mettre ça en avant. Parler du zéro déchet aussi directement. Là, je revois une, Je repense à une publication, on parlait des résolutions zéro déchet, essayer d'utiliser des bocaux, composter, recycler, ça n'a rien à voir avec nous directement. Essayer d'aller dans des magasins de proximité, choisir la seconde main, c'est vrai que c'est des données qui pour nous nous paraissent logiques parce qu'on est en plein dedans, mais finalement en parler à notre communauté, ça peut aussi leur parler.
En fait, c'est ça. C'est d'ailleurs souvent une difficulté qu'ont beaucoup de marques, c'est d'arriver à se décentrer. C'est-à-dire que souvent on pense que quand on est dedans, en fait, tout le monde le sait. Alors, c'est pas du tout le cas en fait. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu disais sur l'histoire de la petite brosse à dents là, justement, qui va bouger de ville en ville pour être livrée. Enfin, il y a cet aspect de raconter l'histoire du produit. Beaucoup de storytelling, mais effectivement, je pense que quand on est une marque engagée aussi, on a vraiment besoin d'aller vraiment sur du storytelling pour raconter comment vit le produit avant d'arriver chez le consommateur. Et ça, c'est un axe qui est important. Donc, on a parlé des contenus éducatifs. Les contenus éducatifs aujourd'hui, regardez un petit peu ce que. Enfin, moi aussi, j'ai regardé ce que vous faisiez, c'est hyper intéressant sur la manière dont on utilise les produits, le voir en action aussi. Ça, c'est vraiment un élément de réassurance fort. Est-ce que on peut aussi imaginer avoir des contenus qui vont jamais parler du produit? Nous, on est un peu sous cet axe-là. Généralement, on dit à nos clients maximum 25% de contenu qui parle du produit et le reste, ça ne doit pas en parler. Est-ce que vous avez aussi des contenus qui vont intéresser la cible à laquelle vous vous adressez, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec une brosse à dents, mais tu vois, moi, je suis sensible à l'écologie. Ça me ferait assez plaisir aussi d'apprendre justement des tips sur comment réduire mes déchets, comment réduire mon empreinte carbone, des choses, des actions de la vie de tous les jours. Est-ce que ça, vous en avez aussi qui sortent un peu du produit et qui vont vraiment plutôt résonner pour le cœur de cible?
Oui, on en a un petit peu. Ça dépend aussi des actions, mais là, par exemple, le mois de mars avec le mois du vrac, c'est sûr qu'on va parler du vrac en général et pas que des produits qui sont disponibles en vrac dans les magasins. Après, c'est sûr qu'on fait aussi parfois des clins d'œil à notre stratégie à nous, à la façon dont on actionne des leviers dans l'entreprise. Mais il y a eu aussi Make Friday Green Again. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et où là, il y a plein de contenus qui sont créés par ce mouvement-là et où on diffuse de l'info qui n'est pas du tout pour. Enfin, on parle pas directement de j'aime mes dents, mais par contre, on a redéfini comment décider si vous avez vraiment besoin de ce produit. Donc, c'est assez marrant parce que finalement, on va potentiellement leur donner des réponses à est-ce que vous avez vraiment besoin de nos produits aussi parfois. Et en fait, on est là. En fait, nous, le but, c'est de communiquer sur des produits qui sont certes zéro déchet, éco-responsables et en soi durables. Parce que finalement, la brosse à dents, on la garde longtemps. Le porte-savon, on le garde longtemps. Les brosses à cheveux, etc., elles sont fabriquées en France, elles sont de bonne qualité. Potentiellement, on les garde longtemps. Donc finalement, on est dans un aspect un peu... on va vous expliquer aussi comment nous, on aime consommer en dehors de nos produits de la salle de bain. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, mais j'essaye de... Je repense à ça et je sais qu'on parlait aussi de la consommation en CO2. On fait pas mal de clins d'œil aussi à la consommation de vêtements, aux dons qu'on fait à des associations aussi, sur la précarité d'hygiène pour certaines personnes. On fait des dons assez régulièrement de produits à des associations. On communique dessus, pas forcément pour parler nous, mais pour dire il y a telle association qui existe, bravo en fait, c'est top. Et c'est des choses qu'on avait fait aussi pendant le confinement, à juste dire tel magasin est ouvert, nous on livre plus. Nous on avait arrêté de livrer pendant le premier confinement, mais par contre il y a tel magasin vrac, bravo quoi, bravo de continuer à être ouvert, on est à fond derrière vous. Et ça c'était aussi des axes où on parlait pas forcément de nos produits mais bon, c'était différent à cette époque.
Non, mais c'est bien aussi d'entendre ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir, l'idée directrice, c'est que, en fait, ce qui va alimenter les réseaux, c'est pas uniquement le produit. finalement le produit, je suis allé voir ce que je suis allé voir, hein, vos réseaux, et ce que je trouve hyper intéressant et ce dont pourraient s'inspirer beaucoup de marques, qu'elles soient engagées ou non, c'est que le produit a sa place, mais qu'il n'est pas majoritaire. On va voir le produit 20-30% du temps, et le reste, on va vraiment être dans un univers autour des valeurs qui sont défendues par J'aime mes dents. Et ça, c'est, je pense que c'est vraiment quelque chose, une bonne leçon à retenir aussi de la manière dont on va alimenter ces réseaux sociaux et garder un lien durable avec ces cibles.
Ouais, c'est vrai que c'est important. Et puis, on essaye d'avoir aussi des retours. On essaye là de prendre aussi pas mal les retours du SAV. Il n'y en a pas non plus 36 000, mais c'est vrai que quand on a des questions, en fait, on y répondait, on trouvait des solutions, s'il n'y a pas de problème, mais on ne les injectait pas forcément dans notre planning de com. Et maintenant, on a décidé de réinjecter en se disant, bah là, oui, effectivement, il y a des gens qui nous disent, bah, le savon, il ne tient pas avec le porte-savon, mais en fait, c'est normal, parce qu'en fait, on ne leur a jamais dit que sur des surfaces qui ne sont pas lisses, bah, ça ne tient pas. Donc, en fait, il faut qu'on explique aussi indirectement que, bah, il y a des choses à expliquer qui sont au-delà du fait que ce produit il soit super bien. Bah, on va parler aussi des trucs qui sont pas négatifs, mais qui sont aussi existantes dans l'utilisation des produits. Et ça, je trouve que c'est un peu différent aussi comme communication.
Mais ça, enfin, nous, on dit souvent ça à nos clients, quand on nous demande, mais où est-ce que vous trouvez toutes les idées pour animer les réseaux sociaux? Et la mine d'or, c'est les questions fréquentes des clients. Je veux dire, tu passes une journée dans un service client, tu as déjà toute ta strate de contenu, quoi. Enfin, c'est ça qu'il faut privilégier et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce que vous faites, quoi.
Bah écoute, je mettrai des exemples qu'il y a sur les réseaux sociaux de J'aime mes dents, parce que pour chaque épisode, on rédige des notes de podcast. Et du coup, pour tous les petits exemples que tu nous as donnés, je mettrai des exemples de publications pour que ce soit assez visuellement concret et qu'on voit du coup ce que vous faites.
Trop chouette. Et je repensais à ça aussi, tant que je n'oublie pas, il y a aussi les marronniers, mais un peu différents. On utilise un marronnier, du coup, vous utilisez certainement ça aussi régulièrement. Et là, on va plutôt s'axer sur justement des journées qui sont dans la thématique Journée mondiale du recyclage, Journée mondiale de l'eau et tout ça, Journée mondiale des forêts. Et ça va, on va parler de choses, même si sans forcément, là on l'a au mois de mars, Journée mondiale des forêts, bah en fait on a des photos de l'entreprise où sont faites les manches de nos brosses à dents et bah ça vient des forêts qui sont gérées, labellisées, FSC, qui sont dans une éthique qui est vraiment chouette et c'est pour ça qu'on travaille avec eux, donc on va vraiment au bout du produit, quoi. Et c'est là où le bambou, c'était une bonne idée de base, sauf que quand tout le monde s'y est mis, bah c'est devenu un plastique, c'est devenu quasiment du plastique. Donc, voilà.
Non, mais ça, c'est intéressant aussi parce que, effectivement, bon, les marronniers, on les utilise beaucoup, enfin, tout le monde les utilise beaucoup. Et puis, à côté de ça, vous pourriez très bien parler de l'origine, les forêts, etc., en dehors d'un temps fort. Et là, vous arrivez vraiment à le relier. Et c'est très cohérent avec le positionnement de la marque. Donc, ça, c'est bien aussi de l'avoir à l'esprit, le côté oui, les marronniers, oui, c'est précieux. Mais il faut qu'il y ait une forme de cohérence avec le discours de la marque, ce qui est votre cas.
Et je trouve ça intéressant aussi ce côté, t'en parlais tout à l'heure, de dire on produit Made in France, mais c'est bien d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça. Moi, je trouve ça bien aussi d'expliquer pourquoi, parce que tu vois, là, avec ton exemple de la brosse à dents en bambou versus la brosse à dents en bois, moi, j'étais la première, il y a quelques années, à acheter ma brosse à dents en bambou en étant toute contente, et finalement, en me renseignant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était plus une brosse à dents si éthique que ça, et que finalement, le meilleur choix se tournait finalement vers des brosses à dents en bois français, produites en France, etc. Et je pense que c'est bien aussi d'expliquer ça. Bah, de dire pourquoi est-ce que c'est mieux de partir plutôt sur ce choix-là que ce choix-là, parce que finalement toute personne engagée ou en cours ou quoi que ce soit a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'elle fait un choix.
Et tout le monde le sait pas, hein. Et je trouve que c'est aussi la force des cofondateurs, de se remettre en question tout le temps aussi, parce que finalement, quand le bambou est arrivé, c'était une super alternative au plastique, et c'était logique, c'était éthiquement, c'était bien. Mais c'est vrai que au bout de 2 ans, se remettre en question et se dire, en fait, le bambou, est-ce que vraiment ça vient de Chine quand même, c'est dommage. Et je trouve ça hyper fort, et je pense que c'est là où il y a une logique entrepreneuriale qui est, et d'entreprise globale qui va plus loin derrière, quoi. Après, il y a eu de la commercialisation du bambou jusqu'à, c'était septembre dernier, parce qu'il y avait du stock et que c'était comme ça, et que ça avait été l'identité de l'entreprise à un moment, et que la production française aussi, ça a un coût, mais c'est intéressant de se remettre en question. Et justement, on va dans ce sens-là. Quand on a annoncé qu'on arrêtait le bambou, c'était bien, quoi. Enfin, on était hyper contents d'en arriver là, et la communauté, elle a répondu en disant, merci de le faire, et trop bien, et on continue à vous suivre, et merci d'exister, et ça, c'est trop chouette.
Ça, c'est un aspect intéressant quand même aussi qui concerne bien notre sujet, c'est de bien avoir à l'esprit en fait que l'audience potentielle de ces marques-là, des marques engagées, elle cherche à comprendre. C'est-à-dire que, et elle cherche à comprendre, et elle ne sait pas forcément. C'est-à-dire que souvent, en tant que marque, nous aussi, on le vit en tant qu'agence, on pense que ce qu'on sait, tout le monde le sait. On en a parlé tout à l'heure. Mais en fait, il faut vraiment casser ce mythe-là et se dire, les gens qui s'intéressent à ma marque, un, ils ne savent pas forcément les dessous, les coulisses, les choix qui sont faits. Et deux, ils cherchent à comprendre. Ils veulent donner du sens, et donc ils ont besoin qu'on leur explique sans forcément les prendre pour des idiots, mais qui comprennent les choix de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que demain, tout le monde doit avoir... voix au chapitre et décider des orientations d'entreprise, mais en tout cas, quand l'entreprise prend une décision, et surtout si l'entreprise est fortement engagée, c'est bien effectivement de donner du sens à cette décision, comme ce qu'on vient de parler.
Mais je vous l'enverrai, la publication, ça a été, on l'avait publié, c'est une qui a le plus engagé en fait, parce qu'on explique comment ça marche ? C'est la fin des brosses à dents en bambou chez J'aime mes dents. Non. Et en fait, on raconte l'histoire. Pourquoi on change ? Parce qu'elles sont fabriquées en Asie. La transparence, ça nous manquait d'informations. Enfin, en fait, on est allé... Enfin, faut oser. Il y a certaines entreprises qui ne sont pas prêtes non plus à être transparents à ce point-là. Moi, j'ai travaillé avec des entreprises où on ne pouvait pas tout dire. On pouvait pas être vraiment transparent. Il y en a des millions d'entreprises où on peut pas voir l'envers du décor, vraiment la provenance des produits, etc.
Ouais. Bon, en général, ce sont déjà de toute façon des entreprises qui sont pas forcément engagées d'elles-mêmes, donc. Voilà,
oui.
mais effectivement, cette notion de transparence, elle est importante aussi. Je pense, t'as raison de le souligner. Ouais.
Est-ce que on pourrait passer à la partie sur sur tes bons petits conseils, est-ce que tu aurais s'adresser aux marques engagées, est-ce que tu aurais des conseils ou des astuces toutes simples, 3-4, à nous partager ?
Je crois que j'ai déjà dit un petit peu ce que j'avais un peu en tête, mais je pense que... Il faut vraiment établir un lien avec le SAV et même le B2B, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont des liens. Nous, on travaille pas mal de magasins revendeurs, et je trouve ça hyper important de les mettre en avant aussi, parce que eux aussi sont sur les réseaux sociaux. Donc si y a des marques engagées qui travaillent avec des points de vente, etc. Pour moi, c'est une force d'avoir des relations solides avec les personnes qui revendent vos produits. Et en général, c'est ce que je trouve important aussi, c'est que nous, par exemple, les personnes qui ont des épiceries vrac, des camions itinérants, etc., il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui étaient en fait en reconversion professionnelle, parce que il y avait une prise de conscience au niveau de la crise écologique, et du coup elles ont plein de choses à dire. Là, on est en train de lancer des interviews, etc., des personnes qui revendent nos produits et qui savent pourquoi ils ont choisi J'aime mes dents aussi. Donc ça, c'est petit tip, je pense, c'est de parler aussi des clients directs. Mmh. Ça, c'est toujours intéressant. Être transparent aussi sur l'utilisation, mais aussi les points négatifs. Par exemple, nous, bah, justement, le porte-savon qui tient pas trop. Enfin, qui tient pas trop. Il tient très, très bien, ce porte-savon. Mais c'est sûr qu'il faut une surface lisse. Ça marche pas mmh. sur du bois. Il faut pas que le savon il soit trop lourd. Mais voilà, parler vraiment des choses qui... Anticiper, en fait. Je pense que les réseaux sociaux, c'est le meilleur endroit pour être hyper empathique. Donc, il faut vraiment écouter ce qu'on nous dit et pas les ignorer et y répondre, en fait, à travers des publications. C'est le plus logique. Être réactif aux commentaires et aux messages privés aussi, justement, ça va avec. Et ce que je disais tout à l'heure, je trouve que utiliser le marronnier un peu plus côté éco-responsable, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Moi, je dis toujours que sur les réseaux sociaux, quand on communique, on veut créer des émotions. Enfin, la communication, globalement, c'est ça. Et je trouve que parler de journée mondiale, de journée internationale et mettre en avant des actions qui sont faites par l'entreprise, ça parle toujours, ça crée de l'émotion. Et les gens, ils se disent « Ah bah !» C'est vrai que bah, c'est bien de le savoir parce que je trouve que c'est comme ça que nous aussi, on a envie d'être inspirés un peu dans nos actions du quotidien et c'est comme ça qu'eux, ils font. Bah, peut-être que nous aussi, on peut le faire. C'était des bonnes pratiques un peu globales. Hein, Et aussi, je pensais à autre chose aussi, c'était de faire des collaborations et des concours, mais avec des marques qui vous ressemblent.
Oui.
C'est-à-dire que nous, on met vraiment un point d'honneur à faire. On fait des collaborations, des concours chouettes, mais on fait en général c'est des marques qu'on rencontre sur des salons ou avec lesquelles on a des liens ou on fait partie de réseaux VRAC. Et c'est important à nos yeux de déjà les mettre en avant parce que c'est super bien ce qu'ils et elles font et c'est ne pas mentir à sa communauté aussi. Donc c'est important à nos yeux.
Super. Et à l'inverse, est-ce que tu aurais des erreurs à ne pas commettre, à partager ?
Y en a une en particulier dont j'ai pas encore parlé, c'est oublier l'humain. Je pense que c'est assez facile de rentrer dans une boucle où on met vraiment les produits en avant que les produits. Et en fait, je trouve que y a des statistiques aussi hein, qui sortent. Que c'est toujours important d'avoir des visages sur les contenus. Enfin, ça engage plus, mais il y a une raison à tout ça. C'est que au-delà des écrans, on a envie de voir des visages, on a envie de savoir qui sont les personnes qui font telle ou telle action dans l'entreprise. Et c'est pas toujours facile hein, quand on produit pas toujours en interne. Mais je trouve ça hyper hyper important de valoriser les personnes qui s'activent tous les jours dans la boîte. Et l'humain, je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie. Parfois, quand on communique globalement, hein, pas que sur les réseaux sociaux, encore une fois, mais c'est important, je trouve.
Ça marche.
J'avais une question par rapport... moi, je le vois un peu comme une erreur, peut-être que je me trompe. Est-ce que le fait d'être une marque engagée, ça génère un peu plus de clivage et donc de commentaires? Et est-ce que, du coup, sous-estimer le volume de commentaires à modérer, ça serait une erreur? C'est une question très naïve, mais... Moi, j'ai la sensation quand même, quand on est engagé, on porte des messages qui ne font pas toujours consensus, même si beaucoup le sont, hein, mais il y en a certains qui sont peut-être plus discutables que d'autres. Est-ce qu'une erreur, ça serait aussi de sous-estimer l'impact des commentaires ?
Moi, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis et tu le relèves bien. C'est vrai que ça arrive d'avoir avoir des commentaires. Nous, ça va encore, mais je pense qu'il faut pas le sous-estimer. On le voit un peu plus sur certaines publicités où des personnes disent oui. Ça revient. C'est assez régulier qu'on nous parle du prix. Là, on a eu pas mal de commentaires sur ouais, chez AliExpress, c'est moins cher. Oui, ouais, tout
bon,
à
ça,
fait.
Ça, c'est pas tes cibles, là.
Non, on le sait, mais indirectement, si on n'y répond pas, du coup, nous, il faut que notre positionnement au niveau de la réponse ce soit certes. Oui, mais c'est pas fait en France. Nous, on tient vraiment à proposer des accessoires éco-responsables, zéro déchet, etc. Et en fait, faut réargumenter. Et ça, on en a eu pas mal dernièrement des personnes qui commentent en disant ouais, mais bon. voilà, on n'y voit pas trop l'intérêt. Donc, on se rend compte que, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas dans une niche parce que je pense que c'est de plus en plus global, mais on a quand même pas mal de gens qui captent pas du tout cet aspect-là au niveau du prix et de la conception. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de commentaires et ça peut arriver de plus en plus. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Il faut pas sous-estimer la modération. C'est important.
Ça marche. Est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous raconter en lien avec le sujet du jour ?
Bah, j'en ai pensé à une, mais je sais pas si, je pense que ça va vous parler. Je sais pas si vous avez regardé qui va être mon associé dernièrement.
Oui.
J'en ai regardé certains, mais moi, ça me stresse parce que je me dis, j'aimerais pas être à leur place en majorité. Mais je découvre aussi des super marques et ça, j'adore. Et il y a pas mal de marques, justement, qui sont éthiques. Et il y en a une qu'on connaît un petit peu, qu'on a découvert avec J'aime mes dents et qu'on a rencontré en salon, qui s'appelle Unbottled et qui font des super savons et des shampoings qui sentent bon et qui fonctionnent très bien. Et en fait, quand ils sont passés, ça m'a assez surpris parce que les entrepreneurs qui étaient face à eux, qui étaient des personnes qui pouvaient potentiellement investir dans leur société, ont été assez intransigeants sur parfois le prix, c'est un shampoing, quoi. Il y en a partout dans les magasins, des shampoings, des savons. Et j'étais un peu bouche bée à me dire... Ok, donc en fait, même certaines personnes qui sont quand même assez curieux pour avoir été plusieurs fois chef d'entreprise questionnent sur l'intérêt d'avoir une marque engagée qui crée un produit qui est déjà existant. Donc indirectement, c'est ce qu'on fait avec J'aime mes dents. Et du coup, je me suis dit, ok. Donc même si la personne, la cofondatrice, elle sortait de chez L'Oréal, elle a bien expliqué que elle voulait combattre la diminution des déchets, faire des produits clean, etc. C'était encore dur de se battre contre ces arguments de marché, de prix, etc. Et je me suis dit, ok, donc il faut encore remettre une couche sur le fait que on est toujours dans une surconsommation de plastique et c'est important d'avoir des produits qui sont fabriqués en France, etc. Donc en fait, je pense que c'est une petite anecdote où je me suis dit, ok, bon, nos produits sont bien et sont très chouettes, mais il faut remettre un storytelling qui est bien plus axé sur vraiment la conception, pourquoi ce prix-là, vraiment aller au cœur des questionnements qui pourraient freiner l'achat.
Ouais.
Je vois très bien à quoi tu fais allusion, parce que je l'ai regardé et je me suis fait un peu la même remarque. Et je pense qu'une des erreurs qui a été commise et que pourraient commettre aussi du coup les marques sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, dans le pitch, tout a été fondé sur le produit.
Oui.
Et en fait, c'est pas le produit qui est le plus important, c'est la raison d'être du produit. Et ça, en fait, ils en ont parlé avec les questions,
enfin, plus au niveau des questions.
Et je pense que ça, c'est un travers aussi qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, c'est de se dire, bon, moi j'ai un produit, je vais en parler, mais en fait, c'est pas ça qu'attendent les gens, c'est pourquoi ce produit existe. Et après, derrière, tu peux parler du prix, etc. Mais tu vois, c'est dans, peut-être dans l'angle... qui a été choisi, l'angle d'attaque qui est peut-être pas le bon. Alors après, moi, je suis pas spécialiste, je suis pas à la place des investisseurs, mais peut-être que en se concentrant moins sur le produit et plus sur la raison d'être, l'écho aurait été différent.
Bah, je pense que t'as raison et c'est quelque chose qui, je pense, ça m'a donné une petite décharge à me dire, oh, franchement, c'est hyper important qu'on communique à ce niveau-là. Là, on est en train de développer pas mal l'emailing aussi, qui est en lien aussi avec les réseaux sociaux, pas mal. Et c'est vrai qu'on revient vraiment à la base du pourquoi rejoignez notre équipe pour le combat contre le plastique. On est vraiment dans un storytelling qui est vraiment très, très éthique, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, c'est important de le dire, en fait. Parfois, ça paraît tellement évident, pourtant.
Oui.
Mais c'est important.
C'est ça, exactement.
Super, merci pour ton anecdote que moi je ne connaissais pas pour le coup, mais qui m'a bien étonnée aussi à t'écouter la raconter. Est-ce que tu pourrais conclure cet épisode du coup en trois mots ou en trois phrases à retenir pour ce sujet ?
J'ai, j'ai, J'ai trois mots. Du coup, il y en a un que j'aime particulièrement depuis 2020, qui est la résilience. C'est vraiment s'adapter à tout, dans tous les cas. Mais je trouve que c'est pas que à la vie, c'est aux réseaux sociaux, à l'évolution des réseaux sociaux, mais aussi au marché, au monde. Moi, j'ai quand même travaillé dans des multinationales et maintenant, ça me paraîtrait impensable de pouvoir suivre leur façon de fonctionner, mais après c'est propre à chacun. Mais je pense que ça convient bien à jamais non, faut s'adapter à ce qui se passe, à l'évolution, la pédagogie. Donc je pense qu'il faut toujours se mettre à la place du client final qui n'y connaît rien, toujours se dire j'essaye de me dire parfois, et avec Pauline qui est CM aussi chez Jamais non, on s'adresse à un enfant de 5 ans qui connaît rien et on essaye de le convaincre que ça va changer des choses, de choisir ça, parce que c'est le cas, hein, on va pas se mentir. Et le côté humain, vraiment, ce que je disais tout à l'heure, se recentrer, le troisième mot, c'est humain. Important de voir qu'il y a des humains derrière les écrans et que elle et eux aussi, les clients, c'est des humains, les responsables d'épicerie, de camions, c'est des humains, les fabricants de brosses à dents, c'est des humains. Donc c'est important, je trouve que c'est un mot qui est important dans l'image d'une marque, surtout engagée.
Super. Ben, merci beaucoup à toi.
Merci beaucoup Emma, c'était top, c'était hyper intéressant.
Et du coup, je vais conclure cet épisode à mon tour en vous disant à tous les deux à bientôt. Peut-être qu'on aura le plaisir de te recevoir à nouveau pour un nouveau sujet.
Avec plaisir.
Et bonne journée, bonne fin de journée à tous les deux.
Bonne journée.
Bonne journée.
Et à bientôt au micro du pod.
À bientôt.
Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.